rencontres. Elles peuvent faire la différence dans le choix des futurs dirigeants du pays. Faites-vous enrôler, passez le message à vos proches.
Bien, merci à vous tous qui nous écoutez à travers le pays et même à l'étranger sur www.radiocapi.net. Nous parlons aujourd'hui du phénomène Kobwa-Kangunda. Quelles sont les causes et solutions? Vous savez, parti en Europe pour une conférence, une rencontre sportive ou pour une autre activité, certains compatriotes ne rentrent pas au pays. Ils disparaissent dans la nature après l'activité et entament des démarches pour obtenir l'asile politique. Certains contractent des mariages en blanc, voilà, ou inventent des histoires mensongères pour obtenir des papiers. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et en 2012, la RDC était parmi les pays dont les ressortissants demandaient beaucoup plus l'asile politique en Belgique, par exemple. Alors pour en savoir plus, nous recevons à présent Émeric Kianga, qui est chargé du programme Retour et Réintégration à l'OIM. Émeric Kianga, vous intervenez depuis le studio des radios Okapi à Goma. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, le phénomène Kobwa-Kangunda, Emery, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que cela signifie exactement?
Oui, comme je l'ai toujours dit à différentes occasions avec vous, ce n'est qu'une partie de ce que nous appelons la migration irrégulière. Donc, comme vous savez, vous partez de votre pays ou d'un pays A pour un pays B pour une raison précise, comme vous l'avez souligné dans votre introduction. Mais il y a des gens qui, après l'expiration du motif ou des délais aussi de séjour, ne veulent pas rentrer. Et ils cherchent des subterfuges pour rester dans ces pays-là. Et pour la plupart, ils vont demander l'asile. Donc, au service de qui octroie des autorisations pour des régularisations dans ces pays-là. Donc voilà, Kobwa-ka, comme c'est l'expression de beaucoup de Congolais en Europe, signifie seulement aller demander l'asile dans un centre de demande d'asile en inventant une histoire ou en racontant son problème. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire en introduction.
Oui, mais et pourquoi certains compatriotes, après la fin de l'activité en Europe, ne veulent plus rentrer au pays?
Oui, les raisons sont multiples. Bon, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est peut-être comprendre que on cherchait une occasion de voyager, ça a toujours été le rêve d'aller à l'extérieur. On en profite lors d'une mission ou lors d'un séjour de vacances et on estime qu'on ne veut pas rentrer au pays pour une raison ou une autre. Ça peut être des raisons vraies, comme aussi ça peut être des raisons fabriquées qui vont motiver votre demande. Donc vous ne voulez pas rentrer dans votre pays, vous voulez rester. Peut-être que vous avez trouvé que la vie à l'extérieur, c'est plus meilleur qu'au pays. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne respectent pas les visas, la durée du visa qu'ils ont obtenu, et ils préfèrent rester. D'abord, il y en a qui commencent par rester dans la clandestinité, et quand ils trouvent qu'ils ne peuvent pas continuer dans la clandestinité, c'est en fait aussi une manière de prolonger son séjour dans un pays étranger. Donc, il y en a qui le font par le biais de la demande d'asile, même s'il sait déjà que ça ne va pas marcher, mais il va demander l'asile, il raconte son histoire. Et pour la plupart, ce sont des gens qui ont voyagé avec des passeports, avec des raisons bien connues, mais quand ils arrivent, ils doivent ou ils sont obligés de changer d'identité, de jeter tous les documents qu'ils avaient, et ils racontent une histoire quelconque pour motiver leur demande.
Voilà, ils racontent une histoire quelconque pour motiver leur demande. Et d'après vous, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence lorsque ce phénomène Kobwa-Kangunda prend de l'ampleur, comme c'est le cas aujourd'hui?
Oui, ça prend de l'ampleur par rapport aux situations qui se passent au pays d'origine. Et les conséquences sont nombreuses, comme j'ai souligné déjà, il y a la perte d'identité. Donc, vous devez changer votre identité parce que si vous, supposez, vous êtes Jean-Claude Tshiala, par exemple, si vous êtes entré dans un pays X sous votre nom, avec une raison donnée. Quand vous allez pour demander l'asile, parce que vous savez que si vous dites, voilà, j'ai raconté telle histoire, j'ai fait ça, j'ai participé à telle marche, les autorités de mon pays m'en veulent, et c'est comme ça que je ne sais pas comment je suis arrivé en Europe, je suis là, je demande l'asile. On va directement chercher dans la base de données, on retrouvera votre nom, Jean-Claude Ntiala, vous êtes venu pour un séminaire de formation, donc il n'y a pas de raison. Mmh. On va trouver que vous avez menti.
Oui.
Mais pour ne pas être repéré rapidement, vous changez de nom, vous allez porter le nom de Lungamba, par exemple, et vous dites, donc voilà, je m'appelle Guy Kobokobo, ou je ne sais pas qui, pour essayer de justifier votre séjour en racontant une histoire parfois. Il y en a qui ont de la chance, qui aussi, quand ça tient quand ça tient, ça marche, on vous régularise.
Oui.
Et il y en a aussi qui n'arrivent pas à se régulariser. Et c'est surtout pour ceux-là dont les conséquences sont néfastes, parce que il y en a qui, au premier refus, ils introduisent le recours, ils restent là pendant longtemps sans rien faire dans un centre de demandeurs d'asile. J'en connais, j'ai visité plusieurs centres de demandeurs d'asile en Belgique, par exemple, où vous trouvez quelqu'un qui a fait plus de 10 ans dans un centre de demandeurs d'asile. Donc voilà, il y a la perte de temps, et il sait pertinemment qu'il n'a pas de chance, mais il essaye de rester, de croire que à la dernière minute, on peut avoir pitié de lui. Et les autres conséquences, c'est quoi? C'est l'expulsion. Si vous ne voulez pas prendre vos dispositions pour pas quitter, parce qu'il y en a qui reçoivent l'ordre de quitter lorsqu'ils ont expiré tous les voies de recours.
Les voies de recours.
Donc voilà, les conséquences sont multiples sur la personne elle-même, sur la famille qui a investi en cette personne-là. Et voilà, c'est l'expulsion, c'est le retour au pays qui parfois est vécu comme un échec.
Voilà. On va accueillir Marcel Boto qui nous appelle des Kananga. Nous parlons du phénomène Kobwa Kangunda. Quelles sont les causes et solutions? Émeric Kianga, chargé du programme Retour et Réintégration à l'Organisation Internationale des Migrations, et l'invité d'Okapi Service depuis la ville de Goma. Vous êtes à l'étranger, vous êtes en Europe, vous nous suivez depuis l'Amérique. N'hésitez pas de nous écrire à service@radiookapi.net pour intervenir aussi dans cette émission de la vie au quotidien. Marcel Boto des Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je m'en laisse bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Marcel?
Oui, je voulais poser un peu la question à l'invité. Parce qu'il y a un cousin qui était parti au jeu de Rio là. Quand il est parti, il joue après le jeu, un blague qui a dit non, fais tout que tu tombes malade à la fin des cérémonies pour que tu restes ici, parce que avec ton talent, tu peux contribuer aussi dans notre pays. Bon, je voulais un peu poser la question à l'invité. Est-ce que on peut aussi considérer ça comme si les Blancs aussi contribuent que les Congolais puissent rester dans leur pays par rapport à autres opportunités que les Congolais ont?
D'accord, merci. Émeric Kianga. Émeric Kianga, vous avez la parole.
De quoi il s'agit exactement? Mais comme vous savez, dans toute société, il y a toujours le mauvais... des mauvaises brebis, comme on dit. Il y a des réseaux des mafieux qui opèrent. Comme vous savez, même dans les domaines du sport, il y a beaucoup de choses qui se font pas dans la loyauté. Donc il y a des athlètes qui soit parfois tombent victimes de l'exploitation, donc de la magouille de manager, ainsi de suite. Et ce sont eux parfois qui peuvent faire que la personne ne rentre pas au pays en respectant le protocole qui était défini à l'avance. Et ces personnes-là peuvent être... Bon, il y en a qui arrivent à s'intégrer à certaines conditions, et parfois, après une longue durée d'attente, arrivent à s'intégrer par rapport aux atouts qu'ils peuvent avoir. Mmh. Et il y en a aussi qui restent... On connaît beaucoup de gens qui sont partis comme athlètes, comme sportifs, et n'ont pas réussi à s'intégrer, et ont passé des temps comme ça dans des centres de demandeurs d'asile, comme de musiciens, comme de pasteurs, des gens qui pouvaient être utiles au pays et où pouvaient obtenir même un bon titre pour aller se recycler, aller continuer leur carrière à l'extérieur. Mais voilà, pour ces cas-là, on ne peut pas appeler ça que c'est un Kobwa Kangunda, parce que les motifs sont parfois différents. Lorsqu'on tombe malade dans un pays étranger, le mieux à faire, c'est expliquer, informer les services d'immigration pour qu'on puisse prolonger votre séjour, le temps que vous guérissiez. Mais si c'est fait pour justifier le fait de rester dans ces pays-là d'une manière malicieuse, donc voilà, il y a certaines conséquences qui peuvent arriver. Il y en a qui réussissent, oui, parfois, mais la plupart des cas, ça ne réussit pas.
099-706-6394, c'est le numéro d'appel de contact du magazine Okapi Service. Émeric Yanga, on a appris que certains disent que s'ils recourent au phénomène Kubwa Kangunda, c'est parce que au niveau des ambassades ici, l'octroi des visas devient très très difficile. On accorde difficilement les visas quand vous y allez par la voie normale.
Vous avez raison, nous avons aussi reçu beaucoup de témoignages quand nous avons mener une campagne de sensibilisation avec une ONG qui est basée à Kinshasa, pour ne pas citer à Afrique Action, où beaucoup de témoignages de gens qui ont dit que personnellement ils ont demandé deux à trois fois les visas, ça n'a pas marché, et ils trouvent comme solution de quitter le pays la clandestinité. Mais nous devons dire que cela comporte beaucoup de connaissances et de conséquences. Vous savez que le mieux-être qu'on aspire souvent n'est pas le cas. Et dans beaucoup de pays, par exemple l'Europe, qui est confrontée à d'énormes flux des migrants, et même aussi ils ont un problème de chômage. Donc la vie n'est pas facile à l'étranger comme on le pense. Mais on ne peut pas justifier le refus de visa comme raison pour aller dans un chemin incertain, parce que quand vous demandez l'asile, vous n'êtes pas sûr d'obtenir la régularisation.
Voilà. Et on a appris que par rapport à ces phénomènes Gunda, il y a des gens qui contractent des mariages en blanc. Donc, ils se retrouvent en train de vivre avec quelqu'un qui n'a jamais aimé, tout simplement pour justifier, pour avoir les documents, les papiers.
Oui, les mariages arrangés, comme on dit, les mariages blancs, c'est monnaie courante dans beaucoup de pays. C'est question de trouver quelqu'un qui, lui, soit il est citoyen de ces pays-là, ou quelqu'un qui est déjà résident, il a tous ses papiers, et voilà, vous contractez un mariage par le fait que lui est en ordre, il est citoyen du pays, vous bénéficiez par le fait de votre mariage, vous bénéficiez du droit ou de la régularisation. Mais beaucoup maintenant connaissent des problèmes parce que on va découvrir parfois que s'il y a eu vice de forme ou il y a eu vice dans les consentements. Donc c'est quelque chose qui a été soit de la duperie, du mensonge. Donc il y en a aussi dont les mariages sont cassés après quelques temps. Quand l'autre conjoint ne veut plus protéger l'autre, et voilà, il va dénoncer la police pour dire que voilà, j'ai fait ça parce qu'il y avait telle contrainte, ou il y avait telle promesse, ou il y avait telle circonstance, mais voilà, je trouve que je ne peux pas continuer. Je vous dis la vérité que voilà, ce mariage n'en vaut pas un. Il faut que ça soit annulé. Et de, voilà, pour ne pas connaître des choses comme ça, des choses pareilles, et je pense que le mieux à faire, c'est vraiment de demander les documents ou chercher des raisons valables de régularisation, que de faire quelque chose que vous-même vous savez que c'est illégal. Donc tout ce qui procède de l'illégalité n'a pas de jours à venir meilleurs. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de formes de clandestinité. Donc oui, il y a beaucoup de gens même qui vont travailler dans le noir avec les documents d'autres personnes. Il y en a qui vont falsifier les identités d'autrui pour avoir des papiers au nom de ceux-là. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes, des réalités. Vous allez voir que quelqu'un qui Gabin Tsoki, qui avait tous ces documents, il s'arrange avec quelqu'un d'autre, il lui donne les documents et lui il déclare à la police que ces documents sont perdus, alors que en réalité il a cédé ces documents à quelqu'un d'autre et on va lui faire de nouveaux documents. Donc on va avoir deux personnes sous la même identité. avec comme conséquence que lorsqu'il y a un problème, on peut vous démasquer rapidement. Donc voilà, et aussi grâce à la technologie qui de plus en plus identifie les gens facilement avec les empreintes digitales, beaucoup n'ont plus la chance de tromper sur leur identité. Donc je pense que ça devient même difficile au niveau de même de la demande d'asile. Pourquoi on arrive à démasquer les faux? Parce que vous avez demandé le passeport dans une ambassade, vous avez mis vos empreintes digitales. Quand vous allez dans un centre demandeur d'asile, vous mettez des empreintes digitales. Oui. Facilement, on peut vous identifier et retracer votre parcours. Donc voilà, c'est vraiment le risque que beaucoup de gens prennent. Bon, parfois, ils les prennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Face à l'échec qu'ils voient devant rentrer au pays bréduit, ils essayent de trouver de voir être catholique, quoi.
Bien. On va accueillir Bernard de Manono. Bonjour, Bernard. Bernard, bonjour.
Manon.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, moi, j'ai une question à poser à notre invité. Je voudrais que cet invité me puisse aussi me signifier. C'est à propos des Blancs qui viennent officier en RDC. Parce qu'on a beaucoup constaté, surtout ceux qui viennent dans des sociétés, ils n'ont pas des visas comme les Indiens, ils entrent, ils n'ont pas de quoi, même des documents, ils travaillent, et jusqu'à tel point qu'ils partent, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, pour eux, il n'y a pas ce phénomène-là? Et cela est consisté seulement aux Congolais qui sont à l'étranger. Et moi aussi, ce que j'ai constaté, je vous dis, ma contribution n'est que l'erreur combe au gouvernement congolais. Parce que prenons le cas de nos jeunes joueurs. Quand ils travaillent ici, dans leur pays, pour les clubs, ils travaillent très dur, mais en Europe, on les paye mieux, même s'ils travaillent peu. Mais ici, en RDC, ils travaillent dur, mais on ne les paye nulle part. Peut-être les petits n'arrivent même pas à abandonner ou bien à se déplacer partout en Europe pour chercher les clubs qui vont mieux les payer. C'est ce que j'ai constaté selon moi. Si l'invité a un peu l'idée claire sur les Blancs, il peut me signifier cela. Merci et bonne continuation.
Merci Bernard depuis Manono et Mary Kianga.
Oui, je remercie Bernard, mais comme il a souligné que c'est la responsabilité du gouvernement, s'il y a des étrangers qui sont sur le sol congolais, de la RDC, la responsabilité revient au gouvernement à travers les services qui doivent contrôler les entrées et les sorties de tout individu. Et moi, je suis sûr, je vais rassurer Bernard, que la DGM fait de son mieux. Et lorsqu'il y a des gens qui soit sont trouvés en dépassement de délai de séjour, ça signifie qu'ils ne sont plus couverts par un visa, et ces gens-là sont conduits à la frontière. Donc, peut-être que de Manono, c'est difficile de connaître ce qui se passe à partir de Kinshasa, mais il y a beaucoup de gens qui sont expulsés de la RDC pour faute de visa. Donc, une fois, je vais dire que c'est la responsabilité de l'État et de tout Congolais aussi, parfois, de dénoncer des gens qui sont dans l'irrégularité pour que les services puissent agir. Donc, si parfois, les Congolais hébergent des gens qui sont dans l'illégalité, on ne va pas parler seulement de blancs, mais c'est tout étranger qui arrive en RDC doit avoir une couverture en termes de visa pour son séjour. Et si vous en connaissez qu'ils sont dans l'illégalité, il suffit seulement de signaler au service et les services vont vérifier si réellement la personne n'a pas de justification, n'a pas de visa valable, donc la personne sera sommée de quitter le territoire. Et c'est ce qui se passe dans tout pays organisé.
Et Bernard parle aussi des jeunes athlètes congolais. Ici, dans les clubs, parfois, ils n'ont pas d'opportunité de bien évoluer, de progresser et bien gagner leur vie. Alors, ils préfèrent, à l'occasion d'une rencontre à l'étranger, des Kobwa Kangunda, de disparaître. Et puis, bon, avec l'espoir d'intégrer un club où il sera bien traité.
Oui, c'est bien beau. Mais généralement, ce sont des gens qui vont se vendre. Excusez-moi les termes de se vendre, mais qui vont obtenir parfois des transferts dans des clubs à très moins cher. Parce que vous-même, parfois, vous n'allez pas négocier, c'est quelqu'un d'autre qui négocie à votre place, et c'est quelqu'un d'autre qui définit les règles du jeu, des clauses de contrat, Et c'est mieux de quitter son pays comme tous les autres joueurs, nous en connaissons, je ne veux pas citer, qui partent de la RDC déjà avec un contact clair par rapport à son talent. Il y a des envoyés, des émissaires de certains clubs européens qui l'identifient ici et qui signent des accords avec le club. Là, vous partez dans de bonnes conditions. Vous savez que votre séjour ne sera pas régulier et irrégulier. Mais quand vous quittez vous-même dans la clandestinité, vous arrivez quelque part, vous avez du mal à vous orienter. C'est dans cette recherche-là de régularisation que parfois vous tombez dans les réseaux de trafiquants. Donc, vous allez être victime d'une traite, d'une exploitation quelconque. Vous pensez que vous êtes un bon joueur, vous exprimez très bien sur un terrain de football, alors que quelqu'un est en train de vous exploiter quelque part. Donc voilà, on peut dire que par rapport au pays, on gagne mieux sa vie, mais si on partait dans la régularité, on gagnerait encore mieux, mieux ou plus, 10 fois plus mieux que ce qu'on a. Mais le conseil, c'est de demander aux joueurs, à quiconque, de chercher à partir du pays dans la régularité la plus indiquée.
099-706-6394, c'est le numéro de contact du magazine Okapi Service. Nous parlons du phénomène Kobua Kangunda avec Emery Kianga, chargé du programme Retour et Réintégration à l'Organisation Internationale des Migrations. Malonga, vous êtes à Bandunduville. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Jody et bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
On vous écoute, Malonga.
Ok, merci beaucoup. Bon, de tout ça, Kobua Kangunda, en tout cas, je vois que...
Kobua Kangunda.
Kobua Kangunda, oui. S'il vous plaît.
D'accord.
En tout cas, je vois que c'est compliqué. Ça devient vraiment habituel et quotidien, et sans inquiétude aussi. C'est ce que je vais demander à l'invité, là, et à vous aussi, je dis. Bon, comme si un compatriote, ou bien des compatriotes qui font cela, qu'est-ce que l'État réserve à eux, hein, comme sanction, comme punition? Puisque au lieu de réprimander les promoteurs de ça, nous avions suivi ça. Moi, je suis de la profession adventiste du 7e jour mouvement de réforme. Il y a eu une session mondiale, puisque après chaque année, notre organisation internationale organise une session pour l'organisation nouvelle. Il y a eu nos pasteurs ici de la République démocratique du Congo qui préparaient à partir à l'Amérique. Comme il y avait des pasteurs jeunes comme ça,
oui.
Mais ils se sont arrêtés. Ils ont été stoppés à ne pas sortir le pays de peur qu'ils ne peuvent plus encore entrer. Alors nous tous les adhérents, les croyants de cette communauté en tout cas, nous étions vraiment très inquiets. Comment cela on peut arrêter nos pasteurs qui partait pour nous représenter, pour représenter la République démocratique du Congo ailleurs.
Alors, Malonga,
oui,
oui, si je comprends bien, les pasteurs qui devaient aller vous représenter en Amérique, on leur a pas accordé le visa, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, oui, de peur qu'ils ne peuvent plus encore entrer,
oui.
Jusqu'à ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce que l'État réserve pour ses compatriotes qui font cela? Et non pas faire tomber les erreurs aux innocents. Par exemple, nous étions victimes. Il y a seulement un pasteur, un âgé, vraiment un plus âgé, qui était parti là-bas.
On n'a pas accordé les visas.
Au nombre de 8.
Ils
les 7 étaient restés.
Oui. Ils étaient au nombre de 8, on a accordé le visa qu'à un seul, le plus âgé. Et
oui.
Les autres jeunes pasteurs n'ont pas eu de visa parce que on craignait qu'ils ne puissent plus rentrer au pays. Merci.
Oui,
merci.
C'est ça le problème.
D'accord. Monsieur Emery Kianga.
Oui, aujourd'hui, je vais vous dire que dans beaucoup de pays, il y a un autre élément dans l'octroi de visa qui est de mise maintenant, c'est l'analyse du risque migratoire. Ça signifie quoi? On essaie d'analyser si la personne ne présente pas des potentialités de rester dans le pays d'accueil une fois l'objet de sa visite finie. Donc, c'est ce qui arrive à ce qu'on puisse parfois refuser le visa à telle ou telle catégorie de personnes. Parce que, comme je l'ai dit, nous qui sommes à l'OIM, moi personnellement, qui m'occupe avec mes collègues du programme de retour et intégration, où nous recevons les catégories, de toutes les catégories. Donc, que ce soit des jeunes simples diplômés ou non diplômés, des universitaires ou non universitaires, des femmes ou des hommes, même des hommes de Dieu. Donc, les gens qui, ici, au pays, étaient déjà connus, pasteurs, prêtres, ainsi de suite, mais qui, dans la recherche, comme j'ai dit, toujours des mieux-être, ils ont préféré aller dans la clandestinité pour chercher à demander l'asile avec des histoires qui, parfois, n'y tiennent pas, et ces gens-là sont obligés de rentrer au pays, soit par force, donc là nous parlons de l'expulsion,
soit
aussi par une assistance de certains organismes, dont notre organisme, l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM. Donc, c'est comme ça que parfois, on trouve des cas de refus. Je ne suis pas là pour justifier parce que je ne connais pas de quoi il s'agit. C'est pour vous dire que demander un visa n'est pas une assurance de voyager. Donc, vous pouvez demander un visa pourvu que votre dossier soit bien composé et bien déposé et bien motivé. Donc voilà, si vous n'avez pas réuni tous les éléments pour soutenir votre demande, la demande va être rejetée. Donc quelque part aussi, il y a beaucoup qui ne savent pas comment composer un dossier de demande de visa, et c'est pas la raison d'appuyer beaucoup de maisons qui se créent à travers la République, qui promettent des visas, des bourses d'études, et nous recevons beaucoup de gens qui viennent dans nos bureaux pour nous raconter ce qui s'est passé. Ils ont perdu beaucoup d'argent,
oui.
Soit ils ont voyagé, ils ont été abandonnés à l'arrivée, ou à partir d'ici, on les a escroqués. Donc, c'est pour dire que voyager, c'est bon. C'est par expérience que beaucoup de pays arrivent à déterminer les critériums possibles pour l'octroi de visa et analyser les risques migratoires. On va voir que les risques migratoires est élevé ou il n'est pas élevé ou il est inexistant pour les personnes âgées. On sait que c'est pas quelqu'un qui va faire la rue, qui va aller chercher du boulot parce qu'on a déjà beaucoup de chômeurs. Donc voilà, et des personnes âgées ne peuvent aller que parfois chez les membres de famille qui sont déjà en situation régulière.
Oui.
C'est pour cela que beaucoup de dossiers sont rejetés.
D'accord, on va accueillir Guy de Kinshasa. Nous parlons du phénomène Kobua Kangunda avec Emery Kianga, chargé du programme Retour et Réintégration à l'OIM. Notre numéro de contact, c'est le 099-706-63-94. Guy, bonjour, vous êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci Jordi. Bonjour à vous, bonjour à Emery Kianga. Moi, je suis Guy de l'ONG Afrique Action.
Mmh.
Nous sommes partenaires de l'OIM justement dans la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, nous luttons contre ce phénomène de Kubaka.
Mouda, oui.
Oui, je voulais juste simplement apporter un témoignage sur la campagne que nous avons menée. Nous menons depuis 2008 et l'année passée, nous avons mené une autre campagne avec l'aide de l'ambassade des Pays-Bas et de l'OIM justement, qui était intitulé « Attention, vendeur d'illusions ». Tout à l'heure, il y a l'auditeur qui est intervenu à partir de Bandundu qui disait qu'on avait refusé des visas à un certain nombre de gens. Et Mary venait de parler des réseaux qui se sont constitués ici à Kin. Effectivement, nous luttons contre ces gens de réseaux.
Oui.
Nous appelons les vendeurs d'illusions. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement ce mythe-là d'aller en Europe, mais il y a des gens qui entretiennent le mythe ici à partir de Kinshasa, qui font des arnaques, qui arnaquent les gens avec autant de faux visas, de faux passeports, de fausses promesses, et les gens perdent de l'argent inutilement et se retrouvent dans une situation pire qu'avant. Donc nous luttons sur ces phénomènes-là. Nous conseillons aux jeunes, à tout le monde, de pouvoir faire très attention à ces réseaux,
oui.
Parce que au bout du rouleau, en tout cas, c'est encore le malheur qui les attend.
Alors Guy,
aujourd'hui.
Guy, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces réseaux qui encouragent le phénomène Kobua Kangunda, ou ce sont les membres des familles qui sont en Europe, quand vous arrivez, ils vous disent ne rentrez plus au pays, restez ici?
Oui, en fait, chacun a, comment dirais-je, ses ambitions. Hein. Il y a d'une part ces réseaux-là qui entretiennent les mythes et les faux espoirs chez les jeunes surtout. Et puis, il y a aussi des membres des familles qui sont de l'autre côté, en Europe, les amis aussi, qui, quand vous arrivez, vous promettent. Mais alors, vous allez voir qu'il y a des gens qui restent là pendant autant d'années sans avoir un document. Or, en Europe, si vous n'avez pas de document, c'est un vrai problème.
Vous ne pouvez pas travailler.
Donc, c'est des cas et d'autres que nous retrouvons ces responsabilités.
D'accord, merci Guy de Kinshasa, qui est membre de l'ONG Afrique Action. Merci pour cette intervention. Emery Kianga.
Oui, j'allais ajouter, je salue M. Guy en passant, que à votre question, il y a beaucoup de nos compatriotes qui, à l'extérieur, bon, je parle pas seulement du cas de la RDC, beaucoup de membres de famille qui sont à l'extérieur, qui sont à l'origine même de voyages irréguliers. Donc, il y en a qui falsifient les documents de certaines personnes qui sont en Europe, pour les envoyer ici et bénéficiant de la faveur d'autres réseaux qui sont sur place ici, ils arrivent à faire voyager. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui opèrent à Kinshasa en dépit des campagnes que nous menons avec beaucoup d'ONG comme Afrique Action. Il y a toujours des réseaux mafieux, des réseaux qui continuent à favoriser ce système. Et c'est ce qui amène qu'une fois en Europe, avec les documents de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez qu'à les abandonner. Parce que ce n'est pas votre identité. Et là, vous allez essayer, avec votre propre identité, de créer une histoire. Et c'est eux qui vous amènent dans une espèce de laboratoire pour vous conditionner et vous enseigner en quelque sorte comment vous devez vous défendre, ainsi de suite. Et ils vont même chercher un avocat pour vous, parce que vous venez d'arriver, vous ne connaissez rien. Et c'est cet avocat-là qui est payé par les membres de la famille de l'autre côté, ou parfois qui est commis d'office, mais qui est déjà en relation avec le demandeur d'asile et qui va soutenir son dossier. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Nous en connaissons chaque mois au niveau de notre bureau. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous raconter des histoires. Maintenant, là, il y a beaucoup de filières ou de routes d'immigration qui se créent. Quand on trouve que quitter Kinshasa directement en aller en Europe ou aux États-Unis, c'est difficile, il y en a qui ont créé des raccourcis, ce qu'ils appellent des raccourcis en réalité, ce sont des chemins très longs. Donc, il y en a qui prennent des visas de la Turquie, ils vont au niveau de l'Asie, et c'est à partir de là que les membres de famille qui sont en Europe s'organisent pour les trouver des documents.
Alors, Emery Kianga, la personne qui a Bwakingunda, comme on le dit en Lingala, donc il ne peut rien faire, il ne peut pas travailler, il ne peut rien, il va vivre toute sa vie en clandestinité.
Voilà, en clandestinité, je voulais dire que la vie dans un centre de demandeurs d'asile, c'est une vie qui est soumise à un règlement strict. Donc, dès que vous vous présentez dans un centre demandeur d'asile, vous êtes enregistré et vous êtes envoyé dans un centre quelconque. Donc, voilà, vous devez suivre les règlements de ces centres-là. Vous avez une vie contrôlée, c'est un peu comme une prison, mais c'est un milieu ouvert, comme on appelle. Vous pouvez sortir à une certaine condition. Peut-être vous ne pouvez pas faire deux jours dehors, vous pouvez sortir, aller visiter la famille ou les amis rentrer, mais au moins vous êtes suivi. Vous avez une espèce de jetons qui est en permanence sur vous, parce que quand vous le perdez, vous êtes encore dans une situation plus pire, jusqu'à ce qu'on puisse clôturer votre dossier.
D'accord. Donc voilà, Emery, un instant.
La demande d'asile n'est pas simple.
Emery, on va accueillir Ngembo pour terminer, il nous appelle de Matadi, bonjour.
Bonjour, j'ai peut-être deux préoccupations rapidement. La première préoccupation, je voulais demander à notre expert, qu'est-ce qui fait peut-être si nous voyons les statistiques, beaucoup d'années avant, il y avait trop de refoules par rapport aux gens qui au Bandobo, qui Sarangunda, comme on peut le dire comme ça, et par rapport aujourd'hui, il y a moins. C'est vrai, ils sont pleins dans ce centre-là, mais il y a moins de refoules. Est-ce que les gens de ces pays-là, donc l'Occident, ils ont un peu allégé, ils sont devenus un peu souples, ou ces immigrants-là ont développé la manière peut-être à présenter leur dossier. Et ma deuxième préoccupation, l'expert est là, il est l'expert, c'est vrai qu'il est difficile de dire ça. qu'est-ce qu'il faut faire pour bien présenter ton dossier quand tu revois qui c'est une bonne pour que ça soit accepté. C'est difficile à dire ça, mais en tout cas, c'est une technique qui est développée maintenant dans le monde entier. Et même les gens qui sont proches de l'Amérique, ils le font. Maintenant, il faut qu'il y ait un coaching pour que les dossiers soient bien présentés, à part son ton comportement pendant les Kingunda. Mais la présentation du dossier aussi doit être bien faite pour que ça soit accepté. S'il peut nous aider, parce qu'il sait bien quand les gens font ça, c'est qu'il y a une raison. Personne ne peut accepter de sortir s'il est à l'aise là où il est.
Oui, oui. Certains disent qu'ils partent pour... Il y a la misère, la situation est difficile. Oui. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les gens vivent difficilement. Et Mary Kianga, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ngembo qui nous appelait des matadis?
Oui, déjà aujourd'hui, je veux dire que aller à l'étranger, c'est pas la solution. Il y en a qui ont fait plus d'années à l'étranger et n'ont pas réussi leur vie par rapport à ceux qui sont restés au pays. Donc, c'est au cas par cas. Il y en a qui réussissent, il y en a aussi qui échouent. Mais je veux dire que le dossier dont j'ai dit qu'il faut bien préparer le dossier, c'est avant de demander les visas pour aller dans un pays étranger. Parce que moi, je ne saurais pas vous garantir la formulation ou la composition. Comment monter un dossier pour demander l'asile, parce que je suis pas spécialiste. Moi, c'est pour conseiller aux gens comment est-ce qu'on peut migrer, on peut émigrer de son pays pour l'étranger et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans des situations que nous déplorons. Voilà ce que je peux dire. Et s'il y a de moins en moins d'expulsions, il y a deux explications. Soit peut-être que les gens demande de moins en moins l'asile parce que les conditions ou les méthodes sont connues. Mmh. Ah, y a beaucoup qui vont avoir les refus. Il y en a qui préfèrent rester dans la clandestinité que aller dans un centre de demandeurs d'asile parce qu'on va rapidement les démasquer. Soit aussi c'est en amont au niveau des pays. Il y a plus de possibilités pour beaucoup de gens de voyager, aller dans des pays d'Europe ou d'Amérique. Donc les phénomènes, ça peut s'expliquer. Que beaucoup qui ne savaient pas que la vie à l'étranger était difficile, que même la demande d'asile Kouba Kangunda, ça ne marche plus, et il y en a qui hésitent, qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, et de ne pas perdre aussi beaucoup d'argent, même là-bas, en payant les avocats, et ainsi de suite.
Oui. Voilà, on aura peut-être une autre émission où vous allez parler de comment se préparer pour immigrer en toute régularité. Emery Kianga. Alors, pour terminer, quelle est la solution pour arriver à, si pas mettre fin, mais réduire sensiblement ces phénomènes à Kouba Kangunda?
Oui, les demandes d'asile sont un droit pour toute personne.
Oui.
Donc, ça dépend des conditions dans lesquelles la personne se trouve. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des sérieuses situations difficiles, qui ont des sérieux problèmes d'ordre politique, sécuritaire, et qui font que, une fois qu'il a réussi à sortir de son pays, il ne peut pas revenir pendant un certain moment. Donc voilà, à cette personne-là, il est reconnu un droit universel. Allez-y, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 13 et 14, vous allez voir que les pays étrangers sont tenus à accorder un droit d'asile, à accorder la protection à ces genres de personnes. Mmh. Mais aussi, il y a des personnes qui veulent en profiter pour mentir en quelque sorte sur leur demande. Ça, c'est ce qui est à déplorer. Donc, on ne peut pas interdire la demande d'asile parce que c'est un droit par rapport aux circonstances qu'une personne ou une autre se trouve. Donc, comment réduire ce phénomène, c'est éveiller la conscience de tout un chacun.
Oui.
Parce que les complicités qui vous aide à faire des dossiers et tout, une fois démasqués, ces gens-là aussi peuvent avoir des problèmes. Donc vous pouvez vous retrouver tous victimes de l'expulsion vers votre pays d'origine. Et nous, en tant que OIM, dans les pays d'accueil, dans beaucoup de pays d'accueil, nous intervenons vis-à-vis des personnes qui ont déjà reçu des refus pour leur conseiller de choisir le retour volontaire qui peut faire qu'ils rentrent dans la dignité que d'être expulsés d'une manière brutale.
Bien, Emery Kianga, chargé du programme Retour et Réintégration à l'Organisation Internationale des Migrations. Merci et bonne journée à Goma.
Merci à vous.